Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lorsqu'on se plonge dans l'étude du constitutionnalisme global, il est intéressant, comme les organisateurs du colloque ont décidé de le faire, de se reporter aux réflexions et aux travaux auxquels Manon a fait allusion ce matin, et qui remontent pour certains d'entre eux à il y a un siècle environ sur la question. Ce retour nous remplit d'une grande humilité en relativisant vraiment très fortement l'originalité de certains concepts, de certaines réflexions que nous pensons être le produit spécifique de notre temps, non pas tellement parce que nous serions plus géniaux que d'autres, mais parce que nous avons conscience de vivre une époque assez exceptionnelle, marquée par certains bouleversements dans le domaine technologique, politique, économique et social, qui font que ces concepts arrivent à leur moment, à leur temps. Or, si on retourne en arrière, il est vraiment saisissant de voir à quel point les gens, il y a 100 ans, pensaient exactement vivre ce même type de bouleversement. Ils inventaient d'ailleurs, à ce moment-là, le concept et le terme de mondialisation, puisque c'est un juriste, en l'occurrence bruxellois, Paul Otley, dont je dirai un mot comme représentant des internationalistes, qui a forgé ce néologisme en 1916 exactement. Et on serait étonné aussi d'entendre, ou peut-être pas parce que vous connaissez bien ses travaux, mais Georges Sell, qui parle de manière extrêmement régulière dans ses travaux de société globale et d'ordre juridique global. C'est un mot d'ailleurs sur lequel il met un sens précis, sur lequel je reviendrai. Alors, c'est de Georges Sell dont je voudrais vous parler, et en réalisant le fait de me retrouver ici, l'outrecuidance de venir parler dans les locaux de la faculté de droit de Paris de ce professeur. J'ai pourtant appris de mes aînés qu'il ne fallait jamais essayer d'importer des hiboux à Athènes, et voilà que je suis tombé dans le piège. C'est dû à des circonstances qui remontent à l'idée même de ce colloque il y a très longtemps, mais maintenant il faut l'assumer. Donc, au risque d'avoir le ridicule de présenter Georges Sell chez lui, pour ceux qui viennent d'ailleurs, en quelque sorte, comme moi, c'est un éminent professeur de droit international, ou plutôt de droit des gens, qui est né en 1878, pour le situer, et mort en 1961, qui présente la particularité, mais je n'évoquerai pas cette affaire ici, d'avoir été en quelque sorte nommé deux fois professeur à la faculté de droit de Paris. Une première fois, ça a été avorté en 1925, et une deuxième fois, la bonne, en quelque sorte, en 1933. 1933 ou 1932, 1934, c'est vraiment le moment où il cristallise ses conceptions sur le droit global, constitution internationale, puisqu'il publie une de ses œuvres majeures, son précis de droit des gens, les deux tomes 1932-1934. Entre les deux, il y a son cours à l'Académie de droit international de La Haye sur le droit de la paix, les règles générales du droit de la paix. Et cette époque est aussi marquée par deux articles importants, celle où il traite des fondements du droit des gens de Léon Duguy, dont il se proclame le disciple et dont le professeur Cassès a déjà évoqué l'importance ce matin, et qui est publié aux archives de philosophie et à l'époque de sociologie du droit, et alors son article sur le droit constitutionnel international, publié, bien connu, publié dans les Mélanges carrés de Malbert. Alors, ce qui est constaté de manière très générale, c'est que il y a chez Georges Sell non seulement un éminent spécialiste du droit international, mais une véritable doctrine. Il y a une théorie du droit des gens qui est elle-même ancrée dans une certaine philosophie du droit et un certain mouvement politique dans lequel je veux, qui donnera en quelque sorte mon angle d'attaque par rapport cet exposé. La philosophie du droit, c'est l'école sociologique dont il est d'une certaine manière, à travers son maître Léon Duguy, un représentant tardif, tout à fait radical. Il a d'ailleurs étudié non seulement le droit à la faculté de droit de Paris, mais il était aussi un élève de l'école libre des sciences politiques. La science du droit, dit-il, écrit-il, que les anglo-saxons appellent jurisprudence, forme donc une branche de la sociologie. Et je le cite, je vais laisser beaucoup parler dans le temps qui m'est imparti, il dit les choses mieux que moi. Le droit, regardez, ça va très loin, et le droit est une science expérimentale dont les éléments se trouvent non seulement dans la sociologie, l'économie politique, les expériences constitutionnelles et législatives de l'humanité, mais également dans le domaine de l'assurance, de la prévoyance et l'hygiène sociale, dans le domaine de l'ingénieur social. Il a d'ailleurs lui-même, ces mots nous renvoient à l'univers du droit social, hein, qui est le principal créneau en droit interne de l'école sociologique et dans lequel Georges Roussel a été très impliqué. Son premier livre, c'est sur le droit ouvrier. Il a été chef de cabinet ministère du Travail au moment du gouvernement des cartels des gauches dans les années 20 et il a, à ce titre, joué un rôle déterminant dans l'élaboration du Conseil national du travail. Il a suivi de très près l'Organisation internationale du travail, qui est l'OIT, qui est pour lui une sorte de modèle. Non seulement il participe pleinement de cette école sociologique, mais il participe aussi d'un mouvement plus politique, qui est celui des internationalistes, qui en fait, je ne vais pas pouvoir en parler ici, partie très lié avec l'école sociologique, dont il est un peu le volet tourné vers l'extérieur. Hein, la plupart de l'école sociologique se concentre sur la réforme du droit interne, mais il y a une extrapolation vers le contexte international, et ça, c'est le mouvement des internationalistes qui naît à la même période exactement hein, que l'école sociologique, c'est-à-dire 18, s'il faut donner une date, on est 1885 par là, c'est là que les choses commencent, qui est ce mouvement qui est une nébuleuse, pour employer un terme que Georges Roussel affectionne tout particulièrement, dont le noyau est un mouvement pacifiste. Hein, un mouvement pacifiste. Georges Roussel, qui connaît un peu la guerre pour l'avoir pratiqué, et avoir été mobilisé en 14-18, n'a pas attendu le premier conflit mondial pour s'engager dans l'association qui représente le courant internationaliste en France, le Mouvement pour la paix, qui est fondé par Théodore Heussen dès 1887. Il était aussi membre de l'Union française pour la société des nations. C'est le mouvement internationaliste qui pousse ou qui repousse en avant, je veux dire, l'idée de la société des nations dès les années 1890, et il a participé à l'Union des associations internationales pour la SDN, puisque au fond ces associations françaises sont fédérées dans un mouvement international qui est ce mouvement internationaliste, où on a le Bureau de la paix à Berne, où on a l'Union des associations internationales à Bruxelles avec Paul Otelet. Paul Otelet connaît très bien Georges Roussel, ils ont même une correspondance dont nous avons les archives mais qui n'ont pas été dépouillées à ce jour, je pense, donc avis aux amateurs, ça se trouve à Mons, au Mondanéum, dans une ville frontière entre la France et la Belgique. Je suis prêt à s'il y a des doctorants qui veulent y jeter un œil, on pourrait le faire ensemble. Et outre ce bureau pour la paix, l'Union des associations internationales, il y a l'Union interparlementaire. Enfin, il y a tout un tas de mouvements qui sont des mouvements militants, engagés, associatifs, fédéralistes. Et je les mentionne parce que ça joue un rôle absolument déterminant dans la conception du droit global de ces internationalistes et de Georges Roussel. Avec, au fond, la particularité que Georges Selle fait finalement cristallise des idées, mais les prolonge. Hein. Son œuvre est de loin supérieure sur le plan de la cohérence théorique, sur le plan de la valeur aux internationalistes qui l'ont précédé, mais on est sur une période de 50 ans quand même environ, hein, entre le début de l'internationalisme et du mouvement sociologique et les grandes œuvres de Georges Selle. Donc il y a, c'est une période de temps absolument considérable. Il y a beaucoup de juristes dans ces mouvements, mais peu de professeurs de droit international, parce que ces professeurs de droit international sont interloqués, dérangés, ennuyés par le fait que les internationalistes sont très engagés, pas du tout de neutralité axiologique, et par le fait qu'en réalité, ils ne sont absolument pas d'accord avec la doctrine qui est en train de s'installer du droit international selon le modèle benthamien. Je reviens dans un instant. Georges Selle est la grande exception. Là-dedans, c'est véritablement quelqu'un qui, lui, est au cœur même du dispositif, même s'il n'a pas eu facile à y entrer, et qui est en même temps pleinement dans cette vision réformiste, pas dire révolutionnaire, et engagé du constitutionnalisme global. Alors, dans le temps nécessairement limité, qui ce n'est pas un... Je ne me plains pas, qui est dans ce colloque, je vais devoir évidemment aller très vite, donc j'évoquerai trois points. Le premier, c'est la critique de la souveraineté des États et de la définition classique du droit international. La deuxième, c'est cette conception sociologique du droit des gens comme droit des sociétés mondiales émergentes. Et troisièmement, la conception de la Constitution mondiale proprement dite. Et je conclurai sur l'utilité... en tous les cas de les vertus explicatives de l'œuvre de Georges Selle et le guide qu'il propose pour mener aujourd'hui des travaux sur le droit global. Là je suis en quelque sorte un peu à contre-emploi par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que on travaille beaucoup sur des objets, des instruments de droit global au Centre Perelman, et je dois dire que des indications qui viennent des internationalistes comme de Georges Selle sont extrêmement précieuses et donnent un sens, en quelque sorte, en tous les cas pour nous, à nos travaux. Les internationalistes, pour parler de la conception, on va tout de suite comprendre en quoi ils sont totalement critiques par rapport au droit international classique, c'est que internationaliste, ça signifie en fait qu'ils sont totalement opposés au nationalisme. Nationalisme qui est le grand fait émergent de la période, avec la volonté de puissance des États européens qui se manifeste de différentes manières, toutes absolument critiquées par les internationalistes, à savoir le militarisme et la course aux armements, qui accroît très fortement, disent les pacifistes, ils ne se sont pas trompés, les risques d'un conflit, l'impérialisme et l'appropriation des territoires et des ressources de la planète, notamment par un colonialisme de prédation. Attention que les internationalistes ne sont pas des anticolonialistes, hein, ils sont pour cette version du colonialisme civilisationnel qui a vécu, hein, mais se rappeler le contexte de l'époque. Et par-dessus tout, ce qu'il critique, c'est la prétention des États à la souveraineté. Ça, c'est véritablement le chiffon rouge pour les internationalistes. Et ce, tant dans l'ordre interne, la souveraineté des États, tant dans l'ordre interne que dans l'ordre international, qui traduit pour eux la prétention des États à, au fond, se situer au-dessus du droit et à pouvoir décider, vont à agir comme bon leur semble, y compris dans des comportements que les internationalistes et Georges Selle trouvent criminels, comme la guerre d'agression, par exemple. Les Paul Otley, qui est un internationaliste, donc j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, je vais le prendre lui parce que je connais bien ses travaux, comme un peu, je vais prendre quelques phrases typiques du premier internationalisme. Paul Otelet n'a que 12 ans de plus que Georges Sel, mais il est baigné dans l'internationalisme depuis qu'il est petit, il est tombé dedans, il est vraiment totalement engagé dans le mouvement dès 23 ans, et c'est lui plus un homme d'action qu'un académique. Il était complètement tombé dans l'oubli, mais il a ressuscité en quelque sorte, nouvelle postérité, parce qu'il a été désigné, il y a beaucoup d'ouvrages sur lui aux États-Unis, parce qu'il est considéré comme le fondateur des sciences de l'information et comme le premier précurseur de l'Internet. Quel rapport avec le constitutionnalisme global? Il y en a un. Si vous voulez, j'ai publié quelque chose là-dessus, mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais Paul Otelet dit ceci, c'est assez violent. Tant que subsistera dans les relations internationales la notion surannée de souveraineté, la paix ne sera pas définitive. C'est une révolution à faire dans la vie internationale, le pendant de la révolution qui, dans l'intérieur de chaque État, a établi le régime représentatif. Et il appelle en conséquence les citoyens du monde à travailler à détruire de fond en comble les principes et les structures de l'État national qui s'opposent à la République mondiale. Bon, ça paraît très excessif, mais voyons maintenant ce qu'écrit Georges Sel, qui rejoint sur le plan politique et théorise en quelque sorte sur le plan scientifique. L'État souverain, dit-il, a quelques formules quand même assez sévères. De notre côté, c'est un auteur plutôt... dire, c'est pas un pamphlétaire du tout, Georges Sel. Là, on parle d'ouvrage de doctrine, introduction au droit, précis de droit des gens. L'État souverain est l'une des représentations anthropomorphiques que l'homme moderne a hérité de ses ancêtres paléolithiques. Dans l'ordre interne, les expériences constitutionnelles depuis 1789 prouvent bien que la notion de souveraineté est extrêmement dangereuse, car elle conduit nécessairement à la dictature et à la tyrannie. Sur le plan international, la paix demeure chimérique, même phrase que Otelet, tant que certains sujets de droit, les États bien sûr, sont en état de se soustraire au droit. Sur le plan théorique, la souveraineté est un concept, alors tout ça je cite, désuet, fictif, impensable, inimaginable, illogique et pour tout dire enfin, inconstitutionnel. Puisqu'il revient à exonérer certains acteurs du respect du droit. La souveraineté est le déni et la négation du droit en général et du droit international en particulier. Je cite ici encore Georges Sel, « Le droit seul est souverain. Tout sujet de droit qui se prétend souverain s'insurge immédiatement contre le droit et le nie. Vouloir maintenir la notion de souveraineté, c'est nier l'existence du droit international. » Les choses sont claires. Dans la foulée, Georges Sel rejette complètement la définition du droit international qui, vous le savez, est un néologisme forgé par Bentham en 1789 qui a mis une grande partie du 19e siècle à s'imposer contre le concept qui le précédait, à savoir précisément le droit des gens et qui signifie, selon la définition de Bentham, le droit qui procède de la volonté des États souverains pour régir leurs relations entre eux. Le combat à tel point qu'il refuse d'utiliser le terme droit international qui est impropre et combat totalement l'idée de droit interétatique qui lui est correct mais est définitivement l'ennemi. Il rejette aussi toute idée de cette communauté internationale comme communauté des États souverains. Il dit « Il est aussi réel de considérer qu'il puisse y avoir une société d'État que de considérer l'État lui-même comme une société de circonscription administrative. » Donc, la communauté internationale n'est pas plus une communauté d'État que la France n'est une communauté de département. Et justement, ces États, ils s'en méfient terriblement puisque parmi les agents d'élaboration de l'ordre juridique, il en est dont les comportements sont particulièrement sujets à caution, ce sont précisément les gouvernements étatiques qui sont en fait les principaux obstacles au droit global que lui et ses amis appellent de leur vœu. Je vois que j'ai déjà utilisé 2/3 de mon temps, le temps passe terriblement vite, et donc je vais résumer fortement les deux autres points que je souhaitais faire. À savoir, si le droit international, le droit n'est pas le droit interprétatif, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est dans le droit fil des conceptions sociologiques, c'est le reflet des rapports, le reflet c'est un mot pas assez fort, je dirais à la fois le produit et la manifestation du fait que les rapports sociaux se sont internationalisés. Pour Hotley, la vie elle-même étant devenue universelle, le droit qui n'est que le vêtement juridique de tous les rapports à régler entre les hommes est devenu irrésistiblement universel. Donc le droit mondial, il n'y a pas à le proclamer, il n'y a pas à l'instituer, il n'y a pas à le constituer. Il est là, ce droit global existe. Il y a juste à l'étudier. Et George Sell aime beaucoup la maxime préférée des sociologues, c'est-à-dire « ubi societas ». Ibi, Ius, et donc à société mondiale, droit global. Tout phénomène social engendre nécessairement son droit, et donc la mondialisation engendre la société globale du droit des gens, tout ça ce sont ces termes, qui est en fait constitué non pas d'une société, alors ça c'est très intéressant, tout en précisant bien que George Sell est un farouche moniste. Il y a un seul droit, mais il y a une multiplicité de sociétés internationales avec un sens très très large. Dès qu'il y a de la collaboration, sous une forme ou une autre, se crée une société internationale avec son droit, même si c'est éphémère, même s'il ne faut pas y chercher un rapport territorial, même s'il n'y a pas nécessairement d'institution spécifique. Il peut d'ailleurs surgir à chaque instant de l'humus de nouveaux groupements nés spontanément au fur et à mesure que se dégagent de nouvelles formes de vie et de nouveaux phénomènes de solidarité. On a évoqué l'Internet ce matin avec le professeur Cassès et l'ISO, etc. On a tout à fait ici des choses qui s'inscrivent dans la vision de Georges Sell. Car ces nouveaux systèmes sont à chaque fois une société nouvelle, un groupement intersocial avec son potentiel de développement, notamment juridique. On évoquait ce matin, c'était une question, les 2000 régimes juridiques plutôt que le droit constitutionnel unique, eh bien ça c'est la conception de Georges Sell. Il n'y en avait pas 2000 à son époque, mais ça va tout à fait bien dans sa logique. Et effectivement, chaque société internationale, je le cite, toutes ces collectivités intersociales secrètent, par cela seul qu'elles existent, leurs propres normes juridiques afin d'assurer le maintien et le développement de la solidarité qui leur sert de base. Donc chacune secrète son droit, mais en même temps, il n'y a pas un pluralisme. Il y a une intégration qui va se faire justement au niveau de la société global du droit des gens. Et à propos de ces différentes sociétés qui secrètent toutes du droit, il y a une phrase de Georges Sell que je proposerais de mettre au fronton toutes les facultés de droit. On ne peut pas dire à la place de vera lex recta ratio, très philosophique. On a ici quelque chose qui est beaucoup plus sophistique. Voilà ce qu'il dit. Tout peut devenir droit et tout peut cesser de l'être. Je pense que je vais dorénavant commencer mon cours d'introduction au droit en première année par cette phrase. Il y a donc quelque chose qui n'est absolument pas écrit, mais il y a un potentiel. On a une recomposition, sans anticiper sur l'œuvre de Niklas Luhmann, on a une recomposition des différents intérêts qui avant étaient organisés à l'échelon étatique au niveau mondial et cela crée à la fois la possibilité et la nécessité d'une organisation juridique mais qui doit être intégrative et pour Georges Sell il faut que cette multiplicité de sociétés soit encadré par un ordre juridique global qui doit prendre la primauté sur celui des États. Il est condamné soit à régir, soit à disparaître. Donc il y a une lutte qui est en cours et dans laquelle on a d'un côté les méchants États souverains qui en fait luttent de toutes leurs forces contre l'émergence de cet ordre global qui va conduire à leur démantèlement, sinon à leur disparition, pas à leur disparition mais bien à leur démantèlement selon Georges VII. Et en face, nous avons les internationalistes qui, eux, luttent sur le plan scientifique pour concevoir cet ordre juridique global, mais également sur le terrain de l'action sociale par la création de multiples associations, dont celles que j'ai évoquées, mais aussi, par exemple, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé ce matin, l'olympisme. Pierre de Coubertin est un éminent représentant de l'internationalisme, et vous savez qu'au début de l'olympisme, les États n'avaient absolument pas leur place, il n'y avait ni médaille, ni hymne, ni nation, etc. Ça a été ensuite totalement récupéré par le modèle souverainiste. Vous voyez, dans cette lutte qui est à l'œuvre, la science du droit international, dit-elle, a pour but de renouer la chaîne mal soudée et souvent interrompue des solidarités supposées, et en ruinant la conception dualiste, de faciliter le développement et de l'organisation juridique universelle. Mais tout ceci n'est pas écrit. Je vois que je ne vais pas avoir le temps de parler du sujet principal, à savoir la constitution globale. Tout cela n'est pas écrit. Pardon ?
Si, si, c'est bon.
Je n'ai pas attendu.
Oui, oui. 5 minutes.
Ah, tu en parles demain.
Non, bon, bah, c'est parfait.
C'est parfait, alors, puisque... quelle est sa conception du constitutionnalisme global? Il existe d'ores et déjà, de même qu'il existe un droit global, par le fait qu'il y a une société universelle, il existe une constitution matérielle globale. Elle existe. Plus compliquée est la question de savoir s'il faut une constitution formelle, avec la création d'institutions. Si on voit tout le travail des internationalistes, on peut dire que oui, parce que un de leurs principaux programmes d'action, c'est de rédiger des projets de constitution qui deviennent une sorte de genre littéraire juridique en soi, pour créer cette fameuse société des nations. Et il y a des choses extrêmement intéressantes que vous lirez dans mon texte écrit, parce que cette constitution que les internationalistes appellent de leur vœu, et pas du tout l'idée qu'on peut avoir dans certains courants aujourd'hui, qu'on va, au fond, un peu mettre en ordre dans un texte ce qui existe déjà au niveau international. C'est pas du tout ça, c'est un projet de transformation complète, comme j'ai essayé de vous l'indiquer, avec constitution d'un domaine public mondial, avec la création d'un droit d'action des individus contre les gouvernants, qui est une arme principale. Enfin, c'est une constitution de combat. Alors, évidemment, il va y avoir la grande déception de ce que va être la Société des Nations, qui ne va pas dépasser l'idée de communauté internationale des États souverains, qui va donc sombrer, comme le prédisent Georges VII et les internationalistes, dans l'impuissance. Et du coup, vous avez une grande méfiance chez celle par rapport à l'idée d'une constitution formelle. Il dit que si on part d'une conception formelle du droit constitutionnel, il est impossible de concevoir le sens véritable du problème. La constitution mondiale, ce n'est pas un document législatif, une constitution rigide, qui n'est qu'un des procédés, et non pas nécessairement le meilleur, d'organisation constitutionnelle. Ce dont il a très peur, c'est qu'on fige les choses. Il est impossible d'imaginer une vie constitutionnelle figée dans un texte dont l'application exigerait à chaque instant une révision formaliste avec des modalités si souvent compliquées, lentes et, pour tout dire, dangereuses. En fait, il pense que le moment n'est pas du tout favorable cette constitutionnalisation écrite, puisque les États sont en position de force et qu'ils sont des ennemis du modèle que lui appelle de leur vœu. Il est tout à fait lucide en 1933, et bon, on vient encore avoir bien entendu le G7 ce week-end avec des déclarations, notamment de Mme Merkel et pour ne citer qu'elle, extrêmement. Et M. Macron aussi, votre président de la République, sur la résurgence de l'égoïsme des États, la domination des logiques de rapport de force jusque dans les poignées de main, etc. Ce recul dont on a déjà évoqué ce matin du mouvement constitutionnaliste, c'est quelque chose qu'il vit évidemment absolument en 1933 et pour cause. Il dit la société internationale, et en particulier la société européenne, périclite, et sa régression a pour contre-coup immédiat la décadence biologique et la mort des individus. C'est directement lié. De même, l'interne et l'international sont liés, le privé et le public sont directement liés chez Georges VII. Chômage, troubles sociaux, disparition de la liberté individuelle, sous-alimentation, drames familiaux, suicides, paupérisme, anémie, folie, tels sont les résultats que nous pouvons chaque jour enregistrer comme les fruits de l'inobservation des règles élémentaires de la solidarité internationale ou de la méconnaissance de la loi biologique de l'espèce. Il y a tout un pan biologique chez Georges VII que je laisse de côté. Je termine d'un mot en disant que un professeur de cette faculté, de chez vous donc, a mesuré l'intérêt pour Georges VII à travers les citations dont il fait l'objet, etc. Et ça montre que ça périclite beaucoup, disait-il. Je ne vous parle pas de la courbe d'Hotley avant qu'on le redécouvre inventeur de l'Internet. Au fond, le modèle qu'il défend sont en contradiction directe avec la réalité de notre temps, mais aussi avec la réalité de son temps. Ce sont des utopistes, mais si vous me permettez ce double oxymore, ce sont des utopistes lucides et des utopistes pragmatiques qui pensent que ce n'est pas parce que le combat est difficile qu'il faut renoncer à le mener dès lors que l'enjeu est tout simplement vital pour l'avenir de l'humanité. Et puis, sur le plan plus épistémologique, je pense qu'il faut redécouvrir cette littérature de Georges VII et des internationalistes, notamment certains de leurs travaux sur des questions très pratiques, la monnaie, le franc postal universel, les indicateurs, tous des sujets dont on parle aujourd'hui, c'est déjà tout à fait présent à l'époque, avec justement cette idée que il faut aller étudier les nouvelles formes, les nouveaux instruments juridiques et les nouvelles proto-institutions, on a évoqué l'ICANN ce matin, etc., qui se créent au sein de ces sociétés internationales multiples, ces 2000 sociétés internationales multiples, parce que dans la conception évolutive et dynamique qui est celle des internationalistes et de Georges VII, c'est en fait là-dedans, dans ces nouvelles formes, que se trouvent probablement les institutions du monde de demain, plutôt que dans le recyclage, qui leur semble complètement absurde, du modèle de la constitution étatique à un niveau mondial. Je vous remercie.